Bonjour à tous, bonjour à ceux qui reviennent, on est content de les revoir. Bonjour à ceux qui reviennent chaque été aussi. Et ce matin, je vous emmène dans un texte qu'on prêche très peu. Et donc on va le faire pour changer un peu nos habitudes puisque ce sont les vacances. Et je vous propose de lire ensemble la deuxième lettre de Jean. Et je ne vous dis pas le chapitre, parce que de toute façon, il n'y en a qu'un. La deuxième lettre de Jean. Avant de lire la parole, nous voulons prier. Seigneur, ton esprit vit en nous. Et s'il ne vit pas encore en certains d'entre nous, tu veux l'en combler et lui donner. Et Seigneur, on veut vivre ce temps de prédication à l'écoute de ce que ta parole veut nous dire, et donne-moi aussi les mots pour la prêcher droitement. Amen. Alors je vous lis toute l'épître de Jean. Génial. Seconde épître de Jean. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en vous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimons les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris, dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ et n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai encore beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Voilà. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jean écrit à une église. Alors on peut s'interroger de cette fameuse Kyria, est-elle l'ancienne qui gère en gros l'église à laquelle Jean écrit, ou est-ce que Jean, en fait, par Kyria, qui peut se traduire très simplement en grec par dame, Kyrios le Seigneur, Kyria la dame du Seigneur, d'accord ? Et donc c'est un terme qu'il emploierait pour appeler l'église en fait, au lieu de dire... L'ancien à l'église élue et à ses membres, il dit à Kyria, à la dame élue et à ses enfants. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit une ancienne ou que ce soit un terme pour désigner l'église, les enfants sont clairement les fidèles de l'église. Et on voit en miroir, au dernier verset, le verset 13, les enfants de ta sœur, l'élue, te salue, qui voudrait dire que, bon, soit il y a une ancienne aussi dans l'église de Jean, qui a aussi des enfants, etc. Ou alors, en fait, la sœur, c'est l'église dans laquelle les gens et les enfants sont les fidèles de cette église. Pourquoi Jean écrit à cette église ? Parce qu'il existe en ce moment-là, à ce moment où il écrit une hérésie, une nouvelle fausse doctrine qui apparaît dans les églises et qui commence à faire un travail un peu de sape. Cette nouvelle doctrine, notamment, se caractérise par le fait que ces gens ne croient pas que Jésus soit venu en chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne pensent pas que Jésus est réellement devenu humain. Humain. Il a pris l'apparence. Ce n'est pas pareil de dire Jésus est né de Marie que de dire Jésus a pris une apparence humaine. Il s'est déguisé en humain pour nous rejoindre. Non, nous ne croyons pas qu'il se soit déguisé en humain. Nous pensons qu'il est réellement né de la Vierge Marie. Et autour aussi de cette grosse différence de doctrine, comme le dit Jean, sur l'incarnation, le fait que Dieu se soit réellement incarné, ces gens-là pratiquaient toutes sortes d'autres comportements douteux, de péché, d'arrogance, etc., qu'on ne voit pas forcément apparaître dans cette deuxième lettre de Jean, mais que vous verriez apparaître si nous nous plongions dans la première lettre de Jean, qui est 1, 2 et 3 Jean sont dans le même problème, la même problématique. Et alors, Jean écrit à cette église pour l'encourager à rester dans le droit chemin et à persévérer dans l'obéissance. Ce qui est marquant, je trouve, c'est la façon dont Jean associe la vérité et la communion fraternelle. Il y a ce passage qui peut nous paraître un peu choquant, quand il écrit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » On peut se dire, c'est un peu raide, quoi. Sous prétexte qu'il ne croit pas comme moi, je ne lui parle plus, quoi. Je ne le dis même plus bonjour dans la rue. Ce n'est pas l'idée qui est véhiculée par Jean. Effectivement, si des gens circulaient d'église en église, ils étaient reçus et accueillis par les chrétiens. Voilà. Nous, Français, on ne vit plus trop ça, mais si vous étiez à l'étranger, vous chercheriez peut-être à circuler de maison d'expatriés en expatriés pour être bien accueillis et retrouver le confort de votre culture. Quelqu'un qui vient chez nous, quelqu'un qui viendrait dans notre église en disant « Je suis un chrétien comme toi et je viens visiter ton église », mais qu'en réalité, il ne croit pas que Jésus soit réellement né de Marie, viendrait faire un travail de sape dans l'église, miner la foi de l'église, semer une division. Et c'est à cela que Jean se refuse, et c'est à cela que Jean nous demande, nous aussi, de refuser. Nous ne reconnaissons pas comme chrétien celui qui vient à nous tout en disant « Jésus n'est pas né de Marie ». De la même manière que nous n'appelons pas chrétien ceux qui rediraient « Jésus n'est pas Dieu ». Alors si je dois recevoir ce frère, non, c'est pas un frère justement, c'est cet homme, c'est ce compatriote, je ne sais pas comment le dire, que ce ne soit pas dans le cadre de la communion fraternelle. Sinon, en le reconnaissant comme un frère ou en la reconnaissant comme une sœur, alors qu'elle ne confesse pas qui est mon Dieu, je jette le doute et le trouble dans l'Église. Je brouille et je rends flou les frontières qui délimitent le peuple de Dieu. Alors, nous ne voulons pas avoir beaucoup de frontières, nous ne voulons pas avoir beaucoup de règles, mais nos confessions de foi, quand même, nous permettent de savoir, de reconnaître en face de nous un autre enfant de Dieu ou pas. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, on préfère avoir une relation personnelle avec Jésus et pas penser à des doctrines, pas penser à des confessions de foi, à des règles comme ça. On a l'impression que ça tue, ou la communion, des choses comme ça. Mais en réalité, Ce sont des choses nécessaires. De plus en plus lorsque des courants étranges, parfois, circulent dans les églises. Et c'était le cas à l'époque de Jean. Donc la communion fraternelle basée sur la vérité. Si on relit le verset 1, il dit donc à cette ancienne, à cette kyria, ou cette église que j'aime dans la vérité, dit-il. C'est parce que nous sommes mutuellement dans la vérité que j'aime cette église, dit Jean. Et il continue en disant, pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui, avec moi, ont connu cette vérité. Souvent, quand on nous interpelle sur la question de la communion fraternelle, j'entends des réponses qui nous disent « Oui, mais dans l'Église, on ne peut pas être ami avec tout le monde. » C'est vrai. Si je voulais passer assez de temps avec chacun d'entre vous au point d'être ami, il m'en faudrait beaucoup et un peu tout le temps, et je ne ferais que ça de mon ministère. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais parce que toi, toi et toi, vous confessez le même Seigneur, parce que nous partageons la même vérité, je dois me considérer comme ton frère. Et à cet égard, je me dois à toi plus qu'à d'autres personnes qui ne seraient pas des chrétiens. Lorsque nous avons eu la joie de baptiser tous ces gens-là qu'on a baptisés à la fin de l'été, nous ne pouvons pas discerner qui a reçu l'Esprit Saint, qui est authentiquement né de nouveau ou pas. Ça serait terrible d'ailleurs. Nous baptisons sur la confession de foi. Quelle est ta vérité ? Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour les pardons de nos péchés, je crois qu'il reviendra un jour pour juger le monde. Ah, tu crois comme moi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La vérité commune qui nous unit fait la communion que nous vivons. Et Jean cherche à protéger cette communion en donnant des avertissements à ses églises, en leur disant, bon, si quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est né de Marie, ne l'intègre pas dans ta communauté. À côté de ça, il y a aussi des bonnes nouvelles dans cette lettre que Jean a écrite, puisqu'il a croisé alors, des enfants de Kyria, est-ce que ça veut dire des disciples de Jésus qui fréquentent cette église-là, ou réellement que Kyria a des enfants. Et apparemment, ceux-ci marchent dans les commandements du Seigneur et ils pratiquent amour envers les uns et les autres. Aimons-nous les uns les autres. Si vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous verrez que aimons-nous les uns les autres, c'est le leitmotiv de Jean. Et pour lui, pratiquer cet amour est vraiment un des signes, un des marqueurs clairs du disciple de Jésus. Cela veut dire encore que nous devons être amis avec tout le monde ? Non, mais que nous devons apprendre à vivre avec un souci, un soin, une attention particulière les uns les autres dans l'Église. Voilà pour le passage que nous avons lu. Et peut-être vous posez-vous cette question, mais si Jésus n'était réellement pas né de Marie, est-ce que cette doctrine de ce que nous appelons l'incarnation, le fait de prendre chair, est si importante? Les pères de l'Église, les tout premiers pères de l'Église, je crois Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 35 et 110, devront affronter une hérésie à peu près similaire qu'on appellera le docétisme. Dans le docétisme, on prétend que Jésus, en fait, donc un humain, né d'un papa et d'une maman, a été investi du Saint-Esprit et qu'il est devenu alors le Christ. Et qu'au moment où le Christ a été crucifié, l'Esprit est parti, laissant l'homme simplement mourir sur la croix. Comme si la divinité était venue habiter un homme, puis au moment fatidique de la croix, était reparti. Et qu'est-ce qu'il y a de choquant, qu'est-ce qu'il y a de d'énervant pour ces docettes dans le fait que Jésus aurait été humain? Eh bien, c'est la conception que Dieu puisse souffrir, que Dieu puisse connaître la souillure, la bassesse de notre condition humaine. D'autres religions, encore aujourd'hui, sont choquées par cette idée. Expliquer à certains musulmans que Jésus est Dieu et qu'il est réellement né de Marie, et certains à qui j'ai expliqué ça ont rigolé en disant « Mais alors, Dieu s'est fait torcher les fesses par sa maman. » Et rien que de concevoir cette chose-là pour eux, c'est un blasphème. La divinité ne peut pas être souillée de la sorte. Elle ne peut pas, parce qu'elle doit rester immaculée, puissante, transcendante, ça veut dire très 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 au-dessus de nous, intouchable, inatteignable. Alors que si la divinité prend corps et devient humaine, on peut la toucher, on peut la sentir, on peut l'entendre, on peut la frapper, on peut lui cracher dessus. Mais alors, il n'est pas digne au sens où nous l'entendons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon cheminement spirituel, et moi qui suis né dans l'Église et qui était biberonné aux études bibliques, aux lecteurs de la Bible, aux camps, etc., etc., il m'a fallu très très longtemps, très très longtemps, pour comprendre que Jésus est Dieu. Vous me dites oui, on dit Dieu, on dit fils de Dieu. Jésus est Dieu, Jésus c'est Dieu fait homme. Et en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela et découvrir à quel point c'est important. En tout cas, ça l'a été pour mon cheminement spirituel. Depuis que j'étais tout petit, on m'explique que Jésus est mort pour tes péchés. À l'école du dimanche, on m'explique que Jésus est mort pour tes péchés. Est-ce que tu as commis des péchés cette semaine? Oui, j'ai volé un bonbon. Jésus est mort pour tes péchés. Ouh. Tu te dis, c'est cher payer le bonbon. Et tous tes petits péchés d'enfant sont couverts par le sang de Jésus. C'est pas toujours facile à porter. C'est ça que moi je préfère, avec les enfants, ne pas forcément parler des choses un peu gore comme ça, mais de dire que Jésus a été puni à ma place. Peut-être il a pris une fessée, peut-être il est allé en prison à ma place, selon le degré de gravité de la bêtise. Toujours pour bien marquer la substitution à ma place, mais de laisser le temps à l'enfant de découvrir l'ampleur de son propre péché. Et on passe notre vie d'ailleurs à découvrir l'ampleur de notre propre péché et donc de découvrir la grandeur de la croix. Mais donc moi j'ai été biberonné à ça. Et du coup, j'avais accepté Jésus, et puis oui, il est mort pour moi, mais au final, c'est son job. Je lui ai rien demandé, il l'a fait avant que je le demande, que je naisse même. C'est bien, comme ça on est sauvé, c'est cool. Mais je n'avais pas le moindre sentiment de reconnaissance pour lui. Même, je trouvais ça un peu douteux qu'un père sacrifie son fils. Je veux dire, s'il y a un sale boulot à faire, pourquoi ne le ferait-il pas lui-même? Pauvre Jésus. Et comment est-ce que j'étais capable de raisonner comme ça? C'est parce que je dissociais profondément Jésus de Dieu. Alors, il faut bien dissocier Jésus, le Fils, de Dieu, le Père, puisque le Fils est en relation avec le Père. Et pourtant, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et donc, un père qui sacrifie son enfant pour un autre enfant, pour moi, ce n'était pas rassurant. Parce que maintenant, je deviens moi aussi son enfant, et qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas aussi un jour me sacrifier pour un autre enfant ? Je n'avais pas confiance et je n'éprouvais pas de reconnaissance. Et puis un jour, en étudiant notamment l'évangile de Jean, j'ai vraiment compris que Jésus, c'est Dieu qui souffre pour moi. C'est pas Dieu qui commande à quelqu'un de souffrir à ma place, c'est Dieu qui lui-même vient souffrir à ma place. C'est Dieu qui lui-même vient expier pour moi. C'est très important. Et ça a bouleversé mon christianisme. Parce que si c'est Dieu qui s'inflige à lui-même la sanction que je mérite, et non pas Dieu qui inflige à un autre la sanction que je mérite, alors ce Dieu est digne de confiance. Et quand j'ai réalisé ça, ça a suscité en moi une grande reconnaissance et une grande humilité face à un Dieu pareil. Et alors, on peut avoir ce paradigme, cette vision du monde dans certaines religions, que Dieu doit être très très haut, très très craint, très très respecté, très immaculé, très propre, très impeccable. Et de l'autre côté, il y a la vision chrétienne d'un Dieu qui se salit les mains, d'un Dieu qui descend en chair et en os dans notre humanité pour nous rejoindre. Et plus que nous rejoindre, pour nous porter, pour nous greffer en lui, pour nous assumer dans tout ce que nous sommes. Un Dieu qui ne punit pas Paul pour sauver Jacques, mais un Dieu qui se frappe lui-même pour sauver et Paul et Jacques. Que ressentir face à ce Dieu ? Ce Dieu tout-puissant qui d'un claquement de doigts peut faire ce qu'il veut, qui par sa simple parole a créé et organisé le cosmos et l'univers, une puissance telle qu'on ne peut même pas la concevoir, puisque dans son esprit, si Dieu a un cerveau, voilà, on imagine pour l'exercice que Dieu a un cerveau, il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de cerveau. Si, en Jésus, mais bon, ça devient compliqué. Il pense à chacun d'entre vous. Toutes les cellules de vos corps sont maintenues à l'existence parce que Dieu y pense. Est-ce qu'on peut imaginer un tel degré de puissance et y ajouter tous les milliards d'étoiles qui sont dans les galaxies? Penser à tout ça, gérer tout ça à l'instant et se soucier de la prière de ce petit enfant qui se lève le matin et qui est content de partir en vacances et qui veut prier Dieu pour, je ne sais pas, que le trajet se passe bien. Un tel degré de puissance qui s'abaisse à prendre notre apparence, mais notre corps, puisqu'il naît de Marie. Oui, effectivement, Jésus, Dieu, a tété le sein de sa mère. Oui, Jésus, on a dû lui essuyer les fesses. Il a dû apprendre à marcher. Est-ce qu'on peut le concevoir ? Mais plus que de le concevoir, est-ce que nous pouvons être fiers de ça ? Est-ce que vous trouvez ça glorieux? Mon Dieu a la classe. Mon Dieu est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un bébé. Ou est-ce que nous préférons fonctionner à la manière du monde? Désolé. Mon Dieu a la classe parce qu'il est plus fort que le tien. Parce qu'il fait des trucs incroyables, vous voyez? Des miracles, des choses, sauf ce qui frappe la vue. On a vu en étude biblique, hein. Il y a celui qui vient toquer à la porte et qui dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé et chassé des démons en ton nom ?» On l'a vu, il ne rentre pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et d'un autre côté, ceux-là à qui le Seigneur dira « Ah, merci !» Bienvenue, vous m'avez visité quand j'avais faim, vous m'avez vêtu quand j'étais nu, vous m'avez soigné quand j'étais faible. Ils diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou être en prison ou être faible? Et Jésus de dire, toutes les fois ou vous l'avez fait pour le moindre des petits qui m'appartiennent ? Il y a une sagesse, je pense, à méditer. Joël nous a parlé de la contemplation. Contempler, méditer le mystère de l'incarnation. Dieu, tu es devenu un humain. Tout ce que ça veut dire. Première étape. Deuxième étape, est-ce que je trouve cela glorieux ? Ou plutôt gênant ? Est-ce que ça me met mal à l'aise ? Ou est-ce que ça m'impressionne ? Et là, j'ai un chemin à faire aussi. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Jésus glorifie Dieu, vous êtes d'accord ? Dieu a choisi de se glorifier en nous sauvant à travers Christ. Vous êtes d'accord ? C'est ce qui est écrit dans les Épîtres. Mais alors, je dois trouver impressionnant l'incarnation. Être impressionné par ça. Waouh ! Mon Dieu ! Il se salit les mains, il vient sur terre, il naît comme un homme. Et c'est sur lui-même qu'il fait tomber le châtiment qui aurait dû tomber sur nous. Quel Dieu impressionnant. C'est pour ça que Jean combat cette hérésie. C'est pour ça que Jean insiste pour que dans l'Église, il ne soit jamais dit « Non, Dieu n'était pas vraiment homme. » À l'inverse, qu'il ne soit jamais dit « Non, Dieu n'était pas, Jésus n'était pas vraiment Dieu. » Pour la petite histoire, un brave théologien du 3e ou 4e siècle, je ne sais plus, qui s'appelait Tertullien, a eu cette phrase un jour: Marie, Mère de Dieu. Une bonne partie de la théologie mariale catholique d'aujourd'hui vient de cette phrase de Tertullien, Marie, Mère de Dieu. Et pourtant, quand on le remet dans son contexte, qu'est-ce que Tertullien a voulu dire ? Il a voulu dire que Jésus était réellement né et qu'il avait une vraie maman physique. Et que le mystère de l'incarnation, c'était que Marie avait porté le Fils de Dieu, en chair et en os. L'histoire retiendra la phrase, mais peut-être pas le contexte dans lequel elle a été citée, de dire à quel point, dans les premiers siècles, on a lutté pour maintenir cette doctrine de l'incarnation, qui pour moi, aujourd'hui, est si fondamentale dans ma foi. Dernière chose à dire, Jean insiste beaucoup dans sa communauté sur l'importance de l'amour et du fait de s'aimer les uns les autres. Et je pense que le fait de croire et de contempler que Dieu est devenu un humain et que c'est lui qui est monté de son plein gré sur cette croix à ma place, que c'est lui qui s'est frappé lui-même pour moi, donne le sens de la communion fraternelle. Et peut-être qu'il y a effectivement un lien entre le combat que Jean mène contre cette doctrine bizarre qui veut dire que Jésus n'était pas vraiment humain et l'accent qu'il met sur « aimez-vous les uns les autres ». D'ailleurs, si on repense à ce commandement « aimez-vous les uns les autres » dans son contexte, Jésus avait dit « aimez-vous les uns les autres comme moi ». Je vous ai aimé. L'ancien commandement disait « Aime ton prochain comme toi-même. » Jésus lui fait une mise à jour, le commandement 2.1, et il dit « Aime ton prochain comme moi, je t'aime. » Mais je n'aurai pas accès, je ne comprendrai pas combien Jésus m'aime si je ne contemple pas le mystère de l'incarnation de Jésus, le fait que Jésus est réellement devenu un humain.
le fait que Jésus est réellement devenu un humain. Pour ça, il faut nous plonger dans le mystère des évangiles, les contempler, contempler les silences de Jésus, contempler ces moments de faiblesse. Oui, il en a eu. Contempler les moments où il a pleuré, contempler les moments où il s'est réjoui, se le représenter avec ses amis, avec sa famille, et nous dire, est-ce que là, c'est mon Dieu qui marche sur la terre avec nous? Alors que Jésus allait partir pour rejoindre le Père, mais avant ça, passer par la croix, Philippe lui demande, écoute, si tu t'en vas, montre-nous le Père, et puis on va se débrouiller après. Ça nous suffira. Et Jésus lui répond, ça fait 3 ans que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu? Tu ne m'as pas vu? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me demander, montre-moi le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit Jésus boire un peu de vin pourra dire, j'ai vu Dieu boire du vin. Celui qui voit Jésus rigoler à une blague d'un de ses disciples peut dire, j'ai vu Dieu rigoler, je connais le rire de Dieu. Poussez, poussez dans votre tête, dans votre esprit, dans vos raisonnements, le lien entre Jésus et Dieu à ce point-là. Et vous serez touchés, je pense, par l'amour que Dieu a pour vous. Que Dieu a pour vous. Il est toujours étrange de voir que des gens se sentent proches de Jésus, mais éloignés de Dieu. Je me sens proche de Jésus, mais éloigné de Dieu. Alors que Jésus ne faisait que imiter Dieu son Père. Tout ce que Jésus a fait, il l'a vu faire auprès de Dieu le Père. Alors, si je me sens bien avec Jésus, mais distant de Dieu, là aussi, la bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous ressentez auprès de Jésus, vous devriez pouvoir le ressentir de la même façon auprès de Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.